l'espoir. L'évêque du diocèse catholique de Maaginyoka dénonce l'occupation en août dernier par les troupes ougandaises de la localité de Sisi en territoire de Maagi, province orientale. Selon ces prélats, l'invasion du territoire de Maagi, qui a duré 2 semaines, est une humiliation du peuple congolais. Monseigneur Sosten Ayukili appelle le gouvernement congolais à prendre au sérieux cette affaire qu'il qualifie de menace permanente dans la partie nord-est de la RDC. Quelle analyse faire de cette situation et que faire pour mieux sécuriser les frontières de la RDC? Nous en parlons avec Mohamed Boulé, il est député national de l'opposition et élu de la province orientale. Et il est cadre du MLC et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Mohamed Boulé.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Professeur Kibangoukalala, il est professeur à l'université de Kinshasa, il est aussi spécialiste du droit international et prépare un ouvrage sur les frontières de la RDC. Bonsoir professeur Kibangoukalala.
Bonsoir Guimati.
Et au téléphone, Gaston Moussemena, il est député national de la majorité présidentielle et élu de la province orientale, il est cadre du PPRD. Bonsoir Gaston Moussemena.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Gilbert Boulambo, depuis les États-Unis d'Amérique, les autorités congolaises doivent prendre ces menaces au sérieux et réagir immédiatement. Pourquoi ne pas envoyer une unité des FRDC dans ces coins pour protéger la frontière? Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'invasion du territoire des Maagi par les troupes ougandaises est une humiliation du peuple congolais. Déclaration faite le week-end dernier à Radio Kapi par l'évêque du diocèse catholique de Maaginyoka. Monseigneur Sosten Ayikuli appelle le gouvernement congolais à prendre au sérieux cette affaire qu'il qualifie de menace permanente dans la partie septentrionale de la RDC. Reportage de José Deschartemenga qui revient des Maagi.
Le diocèse catholique de Maaginyoka prend mal la dernière incursion de troupes ougandaises sur le territoire congolais. Son évêque estime que ce qui est arrivé est très grave. Un état souverain envahi par un autre en plein 21e siècle est inacceptable. Monseigneur Sosten Ayikuli.
C'est une grande humiliation. On est choqué. En tout cas, c'est une incursion parce que c'est vraiment dans les territoires de notre pays. J'ai dit que nous vivons ça comme une humiliation. C'est un choc pour nous. Nous nous demandons comment ceci peut être possible. Un pays souverain qui voit ce genre de choses, c'est trop.
Les autorités coutumières local ainsi que la société civile alerte Kinshasa sur le danger qui pèse sur le territoire frontalier de Maagi. En plusieurs endroits, le territoire congolais de Maagi est envahi progressivement par les Ougandais. Que ce soit à Rodo ou à Djoubouchama, le scénario est le même. Les Ougandais construisent progressivement au-delà des bornes héritées de la colonisation. Uchoun Agnolito, chef du groupement Palara.
Il y a des bornes, ça existe depuis bien longtemps. D'abord, le premier borne, c'est sur le mot Achou, Asina. Il y a encore un Betola qui existe bel et bien, même à l'heure où on parle ici, ça y est là. La grande partie ici, vers le milieu ici, dont les Ougandais sous-attendent que ça fait leur sol, c'est faux et archi-faux. Ça fait chez nous.
Rappelons que les troupes ougandaises ont assiégé la localité de Sisirodo dans les territoires de Maagi pendant 2 semaines en août dernier. Bien qu'elle se soit retirée, elle rôde toujours aux alentours. De retour de Maagi, Bounia, José Deschartemega, Radio Okapi.
Le militaire des forces armées de la RDC enlevé hier par les hommes de la sécurité rwandaise est toujours en détention au Rwanda. Ce sous-officier a été pris de force par les services de sécurité rwandais alors qu'il s'est trouvé dans la zone neutre qui sépare la RDC et les Rwandais au niveau du poste frontalier de la Petite Barrière. Selon le porte-parole des FRDC au Nord Kivu, la structure militaire de vérification conjointe de la CIRGL, GMV, s'occupe de ce dossier. Jules Ngalawamona.
C'est dans la matinée de ce lundi qu'une équipe de la structure militaire conjointe de vérification s'est rendue à Gisenyi au Rwanda. C'est justement dans cette ville rwandaise frontalière avec Goma en RDC qu'est détenu depuis hier le sergent-major Munanga Kusakana André de la 10e région militaire du Sud Kivu en mission officielle au Nord Kivu. D'après nos sources, la structure militaire de vérification est allée recueillir des informations sur l'incident qui a conduit à l'arrestation brutale de ces sous-officiers congolais en pleine zone neutre qui sépare les deux pays, selon des témoins sur place. Les services de sécurité rwandais reprochent à ce sergent-major d'avoir violé les limites frontalières. Mais selon plusieurs versions des faits, l'incriminé était tout simplement de passage dans cette zone quand des agents de sécurité rwandais en civil l'ont intercepté, brutalisé, puis amené de force au Rwanda. Toutefois, ce lundi, les activités entre les deux frontières se déroulent normalement. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Mohamed Boulet, vous êtes député national de l'opposition et élu de la province orientale. Vous êtes aussi cadre du MLC et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Des véhicules blindés de l'armée ougandaise, dans lesquels se trouvaient environ 300 hommes de troupes, pénètrent dans la localité de Sissi en province orientale. C'était le 25 août dernier et ils y ont passé 2 semaines. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais également saluer les professeurs Antubanou qui est avec nous et mon collègue Moussemena. La situation peut se traduire par la porosité de nos frontières et laquelle peut-être dans certains coins elles ne sont pas bien sécurisées. Parce que, je dois le rappeler, c'est quelque chose comme plus de 10 300 kilomètres de frontières communes avec les pays limitrophes. Les commentaires que je fais, je vais certainement m'appuyer sur un ouvrage écrit par le colonel Roger Nestor Lubiku, intitulé « Les frontières internationales de la République démocratique du Congo, état des lieux et des enjeux géostratégiques », où, à l'intérieur, il dit que les frontières que nous avons, dont nous avons hérité en 1960, en termes des frontières fluides, c'est 5 530 kilomètres. Et frontières terrestres, artificielles, c'est 4 811 et maritimes, 42. Et si vous voyez en termes des bornes, parce qu'il faut partir de là, il faut noter que ces bornes, disons la délimitation de nos frontières, ont été soit théoriquement ou partiellement délimitées, ou soit théoriquement en salle, et que les tracés sur le terrain ou sur les cartes, sur le terrain, ça n'a pas été matérialisé. Et pour couvrir tous ces espaces, nous n'avons, jusqu'en 1960, quelque chose comme 628 bornes. Lesquelles bornes, dans certains milieux, sont déplacées pour des intérêts soit économiques. Ça ne peut pas me surprendre de ce côté-là, parce que nous savons qu'il y a un litige qui date de très longtemps autour de la borne frontière de Goli. Goli qui est une localité non loin de Mahagi, à 10 kilomètres. Je pense, à mon sens, parce que j'ai cherché cette petite localité que je n'ai pas trouvée, que ça pourrait se situer vers ce côté-là. Et vous comprenez que si on ne les protège pas, ça pose problème pour quiconque viendrait, parce que c'est difficile, on traverse et qu'il n'y a pas de surveillance, qu'il n'y a pas des unités pour la surveillance et pour, en cas de réaction, pouvoir s'opposer à de telles incursions.
Voilà, vous avez évoqué la porosité des frontières qui est un fait, une évidence. Mais une fois sur le territoire congolais, pourquoi ces gens doivent passer 2 semaines comme ça, sans qu'il n'y ait de la part des autorités congolaises des réactions?
Je ne saurais pas répondre à cette question, parce que nous avons... Moi, je fais partie d'une institution, je ne suis pas de l'institution gouvernement. Et si je dois m'apesantir sur la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, la mission spécifique de protection de l'intégrité territoriale revient aux forces armées, et de manière particulière à la force terrestre. Et donc, je ne peux pas entrer en détail pourquoi ces gens sont sur ce territoire 2 semaines durant et qu'il n'y ait pas eu une réaction à la dimension de la menace et certainement à cette population qui se voit non sécurisée.
Et vous faites partie d'une des plus importantes commissions à l'Assemblée nationale, c'est la commission de défense et sécurité. Chaque fois qu'il y a de tels événements, n'êtes-vous pas informé pour voir si vous pouvez aussi proposer, n'est-ce pas, des recommandations au gouvernement pour voir comment il peut arriver à réagir et pour solutionner ce genre de problèmes?
Nous sommes rentrés des vacances parlementaires. Croyez-moi, si les collègues élu de Mahagi a été dans sa circonscription électorale, certainement qu'il ne manquera pas de saisir formellement soit la plénière ou le bureau par un courrier pour initier une initiative parlementaire par une question d'actualité ou bien demander des explications de la part des responsables au niveau du gouvernement, j'entends le ministre de la Défense nationale ou celui de l'Intérieur, par exemple.
La contrebande serait l'une des causes immédiates de l'incursion des militaires ougandaises, plutôt des militaires de l'armée ougandaise, qui auraient des complices ici en République démocratique du Congo.
C'est fort probable. Je voudrais d'expérience vous dire que les territoires d'Arou jusqu'à Mahagi, la délimitation donc n'est pas matérialisée. Par exemple, au Mont Zéou, à l'époque du fait maréchal Idi Amin Dada, il a tout simplement fait une plantation de des eucalyptus pour marquer. Il y a plusieurs pistes cyclables où en une nuit, les traversées de part et d'autre sont possibles, même des jours. Et donc, ça pose un sérieux problème parce que en termes de sécurisation pour assurer l'intégrité territoriale du territoire national et surtout dans nos frontières de ces côtés-là, à cause aussi des activités, vous savez, l'engouement qu'il y a, j'ai parlé ici de la borne frontière de Goli, où certainement il y a des travaux pour la recherche du pétrole. Vous savez que les déplacements d'une borne, dite Golila, à plus de 500 km par la partie ougandaise, c'est une des causes des intentions cachées de vouloir donc tromper la vigilance pour dire que cette partie ici nous appartient. Et je crois ce que devrait faire notre gouvernement, c'est de saisir, parce que au niveau de l'Union africaine, il y a une commission ad hoc créée pour spécialement se saisir de ces cas, des litiges ou des conflits frontaliers. Et donc, frontaliers, je vais dire.
Honorable Mohamed Boulay, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Isiro, en province orientale.
Dieu donné à Bakuba, à Isiro, province orientale. Monseigneur Sostène a raison d'attirer l'attention du gouvernement. Je me demande pourquoi le caresse l'Ouganda et le Rwanda dans le sens de leur poil.
Une réaction?
La réaction, ce que Monseigneur a évoqué, certainement, c'est une question très pertinente. Et si nous voyons de ce côté-là, ça peut s'étendre même plus loin. Il y a d'autres coins aussi où on a des problèmes avec le Sud-Soudan. Il y a aussi des litiges, tels que consignés ici dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure ici, où on a des problèmes avec la République centrafricaine et plus au sud avec l'Angola. Et vous, rappelons-nous le cas de Kayemba. Et donc là, il faut certainement prendre des mesures ad hoc. Il faut monter une armée capable et des unités spécialisées, parce qu'au niveau de la police nationale, il y a une police dite des frontières. Cette police-là a la capacité de veiller à ce que de telles incursions ne puissent pas arriver sans que l'autorité ne soit informée de cela pour prendre des mesures idoines.
Lorsque les militaires ougandais sont arrivés à Sisi le 25 août dernier, ils ont trouvé à la frontière trois éléments de la police des frontières.
Vous comprenez que trois éléments de la police des frontières face à des unités blindées, si ces trois blindés, la force de frappe de ces trois blindés dépasse de loin la capacité. Donc, ce que les policiers ne pouvaient faire, c'est seulement de se retirer et de pouvoir informer, encore qu'ils disposent des moyens de communication pour transmettre à qui des droits l'information à temps réel. Et ce sont des difficultés qu'on reconnaît un peu partout.
Merci Gaston Moussemena, vous êtes député national de la majorité présidentielle élu de la province orientale. Vous êtes aussi cadre du PPRD. La RDC, même si ses frontières sont perméables, faut-il aller jusqu'à tolérer que des voisins s'établissent sur son sol sans autorisation aucune et personne ne leur pose des questions? Comment vous analysez une telle attitude?
Bien, je commencerai d'abord par saluer le patriotisme de l'Église catholique de Mahagui à travers son évêque qui a sonné l'alarme pour que l'État se réveille, parce que comme mon collègue aîné Boulay venait de vous dire, il appartient à l'État à travers le FARDC de veiller à la protection de l'intégrité du territoire. C'est inadmissible et grave d'apprendre que des troupes d'un pays voisin puissent ne pas respecter les accords internationaux qui font qu'on doit respecter les frontières entre États, puissent faire l'incursion au niveau de notre pays. Donc c'est inadmissible. C'est ici le cas de rappeler encore les problèmes que nous avons au pays, les problèmes de la faiblesse de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, et pour lesquels, il faudra peut-être les rappeler, nous sommes en train de discuter au niveau des concertations nationales. Donc, nous devons vraiment faire un effort pour que, ensemble, au niveau des concertations nationales, nous prenions des dispositions idoines pour améliorer la gouvernance de notre État afin de faire face à des menaces pareilles. Parce qu'il est vrai qu'il existe des accords entre États, mais malheureusement, tous les États ne sont pas des États anormaux, tous les États ne sont pas des États sérieux, tous les États ne sont pas des États responsables, tous les États ont chacun un certain caractère que je ne saurais qualifier, qui n'arrive pas à les respecter. Il appartient à l'État congolais, à travers ses forces, à travers son armée, de savoir se faire respecter en disposant d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive. Donc, c'est un problème sérieux de porosité des frontières, comme mon aîné Boulé a dit, mais c'est surtout ce que j'appelle la faiblesse de la présence significative de l'État au niveau de l'ensemble du territoire.
Honorable Gaston Moussemena, ce que craignent les populations locales, c'est l'occupation de certaines localités par l'Ouganda. Elles disent que les Ougandais se sont établis depuis longtemps sur des localités telles que Djougoutoupa. Ils pratiquent l'agriculture, construisent des maisons au-delà des bornes établies à l'époque de la colonisation, à tel point que vous n'arrivez pas à savoir où se trouve la frontière.
Bien, il est vrai que l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, dans le cadre de toutes ces communautés des pays des Grands Lacs, nous avons des rapports de communautés qui permet parfois la circulation facile des personnes et de leurs biens. Mais bien sûr, dans le respect des lois des différents pays, dans le respect des accords internationaux. Mais lorsque le problème est signalé, il appartient à l'État d'organiser des réunions conjointes pour assurer la bonne délimitation des frontières. Je crois que chaque fois qu'il y a, des problèmes avec les États voisins, la RDC fait des sommets pour que les problèmes soient réglés. Et au niveau de l'Ouganda, jusque-là, il n'y avait pas encore de problème majeur, mais je crois que le premier problème sérieux, c'est le problème qui vient d'être dénoncé par l'évêque de Mahagi et pour lequel le gouvernement congolais devra immédiatement s'atteler, devra immédiatement provoquer une rencontre conjointe avec leurs homologues de l'Ouganda afin de sécuriser les uns et les autres.
Oui, vous dites qu'il n'y avait pas de problème sérieux alors que les populations établies là-bas disent que la zone neutre du côté congolais n'est pas sécurisée. Et c'est comme par exemple à Sisi-Rodo, un espace d'environ 800 mètres est envahi par des Ougandais sur l'espace intérieur. Et voilà, et ces Ougandais sont venus, ils se sont établis, ils pratiquent l'agriculture, ils construisent des maisons. C'est des gens qui ne sont pas venus juste pour une visite, ils sont venus s'établir parce qu'ils pratiquent l'agriculture et sont en train de construire des maisons.
Je suis sérieux, monsieur, je vous dis, je suis originaire de cette province, j'ai de la famille au niveau de cette frontière, donc je connais de quoi je parle. Nous avons aussi des réalités culturelles qui permettent parfois qu'on s'écarte des lois de la République, qui permettent de favoriser la circulation de personnes et de biens au regard de nos réalités culturelles. Donc ça le problème, c'est pourquoi je vous disais qu'il n'y avait pas encore un problème sérieux où on sent notre intégrité territoriale menacée. Les champs, je ne saurais pas vous identifier tous les cas de Congolais qui ont des champs, peut-être de l'autre côté de l'Ouganda, ou ceux de l'Ouganda qui ont des champs de l'autre côté, mais qui se côtoient, parce que c'est la même tribu, c'est la même ethnie qui se trouve de part et d'autre. Voilà pourquoi je disais que le problème sérieux, il n'y en avait pas jusque-là, mais lorsqu'il est signalé, il est de bon aloi que le gouvernement, à toute responsabilité, s'arrête pour demander, solliciter, convoquer, et obtenir une réunion conjointe entre les deux États afin de tirer les choses au clair. Voilà comment je vous dis, mais en tout cas, je suis conscient des difficultés culturelles qui permettent certains échanges parfois au-delà des accords, au-delà des lois, au-delà des dispositions frontalières, parce qu'il faut vraiment les reconnaître. Mais lorsque quelque chose de pareil trouble déjà une grande communauté ecclésiastique comme ça, nous devons nous arrêter et voir comment l'État doit prendre ses responsabilités.
Honorable, avec ce qui se passe à Sisi-Rodo, à Djoupou-Tchama, ne pouvons-nous pas craindre que le scénario Kaemba, hein, où la RDC ne contrôle plus 11 de ces villages et on n'en parle plus?
Je suis convaincu que nous avons beaucoup de problèmes au niveau de nos postes frontaliers, de l'ensemble du pays. Voilà pourquoi j'insiste qu'au niveau des concertations nationales, et je suis de la commission, je suis dans la thématique désarmement, démobilisation et répression sociale, où on est en train d'analyser aussi l'état de naissance des groupes armés, comment nous avons connu beaucoup de guerres. Nous devons tout faire pour que, avec celle-là de la thématique de la décentralisation, qu'on sache bien délimiter notre pays afin que des choses pareilles ne se reproduisent plus. C'est inadmissible que notre pays soit toujours victime. Il n'est pas normal que nous soyons toujours un pays plaintif. Nous devons prendre le devant et c'est là le problème de la bonne gouvernance, le problème de la bonne gouvernance qui est une thématique principale. Donc nous devons ensemble, nous Congolais, veiller à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est la prévention. La bonne gouvernance, c'est la prévision. La bonne gouvernance, c'est la normalisation. La bonne gouvernance, c'est la planification. La bonne gouvernance, honorable, c'est aussi la défense de nos intérêts.
Honorable, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Mahagi en province orientale.
C'est Jean Faustin Wagenera Pitoua, depuis Mahagi en province orientale, précisément de Logo. Ma préoccupation est celle-ci. Je me demande si le gouvernement congolais a accordé une importance à cet événement de Mahagi. Je m'imagine qu'il s'agisse là d'un signe avant-coureur à prendre avec tous les sérieux possibles, car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir.
Oui, je demande si le gouvernement a accordé une certaine importance à cette affaire.
Je vous confirme que le gouvernement est conscient des difficultés qui commencent de l'Ituri jusqu'au nord Katanga. Et mon collègue Boulet qui est avec vous là-bas, il sait qu'on est en train d'en parler au sein de notre groupe thématique. Donc le gouvernement est conscient que le problème de l'insécurité de nos frontières ne se limite pas au nord et au sud Kivu, mais ça commence à partir de la province orientale jusqu'au nord Katanga. Et on devra tout faire pour qu'on arrive à trouver une solution global de tout cet espace-là, du nord jusqu'au sud.
Merci, professeur Chibangu Kalala. Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa. Vous êtes spécialiste du droit international et vous préparez un ouvrage sur les frontières de la RDC. Vous, en tant qu'expert, comment vous expliquez cette situation?
Oui, merci Guy Maté. Je commence d'abord par saluer Honorable Boulet qui est avec moi au studio et Honorable Moussemena, il y a un hasard qui fait que tous les trois, nous sommes délégués aux concertations nationales. Eh bien, c'est un sujet important que vous avez programmé ce soir. J'aimerais d'abord dire, pour les auditeurs de Radio Okapi, que nous partageons une frontière de 817 kilomètres à peu près avec l'Ouganda. Et que cette frontière a été délimitée par un traité conclu à l'époque coloniale par la Belgique et l'Angleterre le 14 mai 1910. Et c'est ce qu'on appelle la délimitation, qui est différente de la démarcation. La délimitation, c'est dans un traité, on vous explique, on vous dit par où passe la frontière. Par exemple, pour la frontière qui fait l'objet du débat de ce soir, ce traité du 14 mai 1910 dit clairement que cette frontière commence par le mont Sabinyou, sommet, et va directement vers le mont Ngabwa. Arrivé au sommet du mont Ngabwa, description, elle va suivre la rivière Issassa. À partir de la rivière Issassa, qui est un affluent du lac Édouard, cette rivière arrive au sud, pénètre dans le lac Édouard au sud. Puis traverse le lac Édouard, la ligne droite, qui divise en deux parties, donc la ligne médiane, et elle arrive au niveau nord, disons la rive nord du lac Édouard, là où la rivière, le Bilana, entre dans le lac Édouard. Donc c'est bien délimité. À partir de là, la frontière va vers le mont Riozori, descend donc en ce moment-là, et il y a un poste frontière que les habitants du coin connaissent, le poste de Karimi. Donc c'est bien précisé dans le traité de 1910. À partir de là, la frontière va, en suivant la rivière le Bilana, va jusqu'au pic Marguerite. Pic Marguerite se trouve au sommet du mont Rionzori. Les monts Rionzori, la partie occidentale, donc le côté RDC, toute cette partie de mont Rionzori fait partie de notre territoire. Le versant oriental, ça c'est en Ouganda. Et ça c'est bien indiqué dans ce traité. Donc on ne peut pas se tromper.
Oui, les traités, c'est des textes, mais le grand problème, c'est que l'honorable Boule l'a relevé ici. Et est-ce que cela est bien matérialisé sur terrain?
Je vais y arriver. Maintenant, il y a des problèmes dans cette frontière, notamment la rivière Semiliki, qui arrive dans le lac Adbert et qui forme une sorte de delta. C'est une frontière qui bouge tout le temps à ce niveau-là. Donc il y a un problème de délimitation de la frontière à ce niveau-là. On avait déjà posé une borne, mais il y a des problèmes. Il y a eu des discussions en 1959, à quelques semaines ou quelques mois, l'accession de notre pays à l'indépendance, pour déterminer et régler ce problème. Mais ce qui est important aujourd'hui de savoir, parce qu'on parle de Mahagi, cette frontière traverse le lac Albert, arrive jusqu'à Mahagi, au point là-bas. C'est là, là où il y a le port de Mahagi. Alors, la question que vous posez est de savoir, cette frontière théorique qui est définie dans le traité du 14 mai 1910, qui a été précisé dans l'autre traité du 3 février 1915 de Londres, comment il est fixé sur le terrain? Comment les populations locales peuvent savoir que la frontière passe par ici ou par là? Et là, on a posé des bornes. Les bornes ont été posées en 1911. J'ai les documents que je vais publier dans le livre dont vous avez parlé, un livre qui a déjà 800 pages à peu près. Je crois que j'arriverai à 1000 pages environ dans ce livre, parce que je parle de toutes les frontières. Et donc, on a posé des bornes. Je possède les procès-verbaux signés. Je possède les numéros des bornes qui ont été posées. À quel endroit on a posé ces bornes, etc. Donc, les points de repère existent. Mais le problème, M. Guimaté, c'est l'entretien de ces bornes. Dans les traités, les accords qui ont été signés à l'époque coloniale, la RDC devait entretenir des bornes qui ont le numéro pair, tandis que l'Ouganda devait entretenir les bornes qui ont le numéro impair. Et ce contrôle devait se faire tous les 10 ans, à peu près. Mais à ma connaissance, ce travail ne se fait pas. Vous avez des bornes qui ont été posées en 1911, bientôt ça fait déjà 100 ans, à peu près, un siècle. Mais ces bornes ne sont pas entretenues. D'autres bornes ont été détruites. Maintenant, le problème qu'on a soulevé, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces bornes, qui ont été construites à 100 ans aujourd'hui, puissent être reconstruites, réhabilitées, de manière à ce que ces repères soient mis à jour pour éviter des discussions.
Voilà, on va y revenir dans la deuxième partie. Voilà. Et vous avez évoqué le numéro pair pour la RDC. Ça, c'est les bornes qui portent le numéro pair qui doivent être entretenues par la RDC. Mais il y a ici, dans une localité comme Djupuchama, territoire des Mahagi, à quelques mètres de là, vous trouvez l'administration ougandaise, parce que entre notre frontière et celle de l'Ouganda, il y a une zone nette occupée totalement par les occupants et qui y habitent et vont même au-delà de la borne qui porte le numéro 21. Donc c'est une borne qui est identifiée, que tout le monde voit, mais les Ougandais viennent, ils s'y établissent, ils vont même au-delà de cette borne.
Oui. Alors, on a le problème, c'est le problème de l'administration. Nous devons renforcer les capacités de notre administration à pouvoir contrôler notre territoire. Je ne peux pas comprendre, et ça c'est une gestion, que les administrateurs de territoire, l'administration des territoires qui sont dans les frontières, le long de nos frontières. On a parlé de Haru, on a parlé de territoire de Mahagi, de Irumu, Djougou, etc., qui sont dans cette partie. Eh bien, il faut que ces gens connaissent d'abord par où passent les frontières, où se trouvent les bornes. Ça, c'est très important. Ils doivent subir une formation, un recyclage, avoir quelques notions de géographie. Quand on parle de latitude ou de longitude, ils doivent savoir ce que c'est. Ils doivent avoir des cartes qui précisent des endroits précis où se trouvent les bornes. Ça, c'est un problème de l'administration. Et puis, puisqu'il s'agit d'une frontière commune, il faut qu'il y ait une collaboration entre les deux administrations, administration ougandaise et congolaise, notamment sur l'entretien des bornes. On ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce que le traité dont je viens de vous parler, du 3 février 1915, indique avec précision les endroits où se trouvent les bornes. Donc, si l'Ouganda déplace une borne, c'est une perte de temps parce qu'on peut très rapidement retrouver l'endroit historique et précis d'après les accords, d'après les traités que nous avons et que moi je vais publier dans le livre, là où se trouvent toutes les bornes. Donc on ne peut pas tricher en la matière.
Si les traités sont précis, mais pourquoi il y a ces malentendus au niveau des frontières? Prenons le cas du Rwanda, qui arrête un sous-officier FRDC, ça c'était hier, en affirmant qu'il a pénétré sur le territoire rwandais, pendant que le porte-parole des FRDC lui dit qu'il a été arrêté sur le sol congolais. Alors, au vu de tout cela, ne pouvons-nous pas être tentés, n'est-ce pas, de nous demander si les pays africains maîtrisent bien leurs frontières? Oui. N'y a-t-il pas un problème de maîtrise des frontières par les pays africains?
Oui, pour revenir au cas du Rwanda, ça c'est encore parce que la frontière avec le Rwanda comporte deux parties. Il y a la partie lacustre sur le lac Kivu, et puis il y a la partie terrestre, c'est à peu près 80 km entre Gisenyi et jusqu'à Bunagana, bon, jusqu'au Mont Sabignon, parce que le Mont Sabignon c'est l'endroit où les frontières du Rwanda, de la RDC et de l'Ouganda se rejoignent. On appelle ça le point triple. Et donc, cette frontière-là a été aussi très bien délimitée par le traité du 14 mai 1910. Nous savons qu'à partir de Gisenyi, au nord du lac Kivu, pour ceux qui connaissent la ville de Goma de Gisenyi, au milieu là, ce qu'on appelle la petite barrière, sur le lac, il y a justement un pilier, une grande borne, qui est le point de départ de cette frontière-là, et qui va en ligne droite, qui suit ce qu'on appelle la ligne des volcans. Donc, on ne peut pas se tromper. Le Rwanda ne peut pas déplacer une borne, parce que moi, je possède les documents qui ont été signés. D'abord le traité, et puis le procès verbal d'implantation des bornes, avec les numéros des bornes. Donc, on ne peut pas se tromper en cette matière, parce que les accords existent, les bornes qui ont été implantées existent avec leur numéro. Et donc, si quelqu'un, un État croit que la RDC est distraite avec tout ce qu'on a comme un problème d'administration, on peut tricher et déplacer les bornes, c'est trop parce qu'on peut très rapidement retrouver. Donc, ce qui se passe à Gisenyi, avec le cas que vous avez cité, c'est ce qu'on appelle un incident de frontière. Et donc, en fait, nous n'avons pas un conflit frontalier avec le Rwanda. Parce que le traité existe, il n'est pas contesté. Il est plus de 100 ans que ce traité existe. Il n'a jamais été remis en cause ni par l'administration coloniale allemande, parce qu'on l'a fait avec l'Allemagne, ni pendant l'époque coloniale, ni même plus tard, on n'a jamais remis en cause cette frontière.
Merci, professeur.
Donc, c'est tout à fait clair.
Honorable Mohamed Boulay, est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau de ce qu'on appelle les zones neutres entre les deux pays? La zone neutre appartient à qui?
Écoutez, cette zone neutre-là, vous comprenez que la délimitation, comme le professeur venait de le dire ici, mais de façon physiquement sur le terrain, ça pose problème. Et donc, en attendant de compléter les bornes pour qu'il n'y ait pas confusion, parce que ces bornes, ce sont des points frontaliers, triples comme on dit, il y en a neuf, comme le professeur venait de dire, si les coordonnées de localisation ne posent aucun problème, parce qu'en longitude ou latitude, c'est bien connu et assorti des procès verbaux, comme dit le professeur. Et donc, c'est question seulement des mauvaises foi, ou de la politique, et tout simplement parce qu'il y a les...
De la part de qui?
De la part de ces pays qui violent, qui déplacent les bornes. Là
est-ce
où il y a intérêt...
Il n'y a pas non plus un problème d'interprétation de ces textes.
Il ne peut pas y avoir un problème d'interprétation. En ce qui concerne la partie congolaise, nous sommes à l'aise lorsque, parce que il y a au niveau du ministère de l'Intérieur, la commission permanente dite des frontières. Et cette commission permanente dite des frontières jouirait bien de l'expertise de l'Institut géographique du Congo. Et il suffit seulement de demander là-bas, on vous produirait toutes les cartes, on vous produirait toutes les données possibles, et toutes les informations allant jusqu'au procès verbaux. Et donc, comme le dit le professeur. Et donc, c'est question que nous soyons vigilants. On ne peut pas laisser, parce que la nature récupérera tout ce qu'on lui laisse, si on laisse une borne quelque part, genre d'expérience. Lorsque nous étions dans un exercice, nous sommes au centre supérieur militaire, nous sommes allés à Kolwezi pour voir...
Je rappelle que vous êtes général à la retraite.
Quand nous sommes allés là-bas pour voir une borne de frontière qui nous sépare avec la Zambie, mais c'est... On peut passer sans le savoir la période à laquelle, par exemple, les gens vont chercher des chenilles. Vous croyez qu'il se passe des choses invraisemblables. Et maintenant, pour une bonne gestion de tous ces conflits, pour une gestion des frontières, la prévention de ces conflits, parce qu'en ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo, il y en a un conflit, il y en a. Entre autres, le problème donc des frontières entre notre pays, l'Ouganda, la presqu'île de Rukwanzi, au lac Albert, qu'on évoque, ajouté à ce qui est arrivé maintenant à la localité Sisi,
avec la Zambie, la frontière était la piste entre le lac Moero et Tanganyika, avec l'Angola, la frontière maritime des Katla River, tout ça. Et puis, avec la RCA, l'île d'Indangi, la rivière Ubangi, à Mobaye, Endou, dans les Bazuélé, avec le Sud-Soudan, la chefferie Faradja à Arou, dans une chefferie là-bas à Arou, et avec l'Angola,
merci,
Kayemba, et certainement aussi Banana. Et avec les Bas-Congo, les déplacements des frontières dans les Bas-Congo, vers Songolo et tout ça. On en a évoqué pendant des discussions ou bien pendant des travaux parlementaires. Et enfin, bien qu'il y ait la calmie, nous avons aussi connu, nous connaissons de temps en temps des problèmes qui surgissent sur l'île d'Embamou aussi. Et donc, notre gouvernement doit tout faire à travers cette commission permanente pour porter l'affaire à l'Union africaine pour trouver des voies et moyens afin de régler pacifiquement ces cas de gestion des frontières.
Oui, professeur Tubangou, vous avez un mot à ajouter?
Oui, je voudrais rassurer dans la suite de ce qu'honorable Boulet vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui, ce qu'il vient de dire. Il faut rassurer le peuple congolais. En droit international, il y a le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, aucun État africain ne peut modifier de manière unilatérale la frontière qui sépare son territoire de l'autre.
Mais les 11 villages qui sont occupés par l'Angola, on n'en parle plus.
Non.
En dépit du fait qu'il existe ces principes.
Mais nous devons, nous, l'État, c'est la responsable de l'État congolais, de faire la démonstration que l'Angola occupe notre territoire, d'ouvrir des négociations diplomatiques pour régler le problème par la voie pacifique, et s'il n'y a pas un accord par la voie pacifique, donc par la voie diplomatique, saisir les juridictions internationales, notamment la Cour internationale de justice, pour trancher le problème.
Merci.
Mais il ne faut pas accuser un pays voisin sans preuve. Il faut qu'il y ait des enquêtes, qu'on vérifie qu'effectivement nous sommes dans notre droit, qu'un État étranger occupe notre territoire ou considère une partie de notre territoire comme son territoire à lui, et donc on discute, on établit des preuves, et si on ne se met pas d'accord, il faut saisir une tierce partie, notamment la Cour internationale de justice. Donc il faut que le peuple congolais sache très bien que les frontières de notre territoire sont intangibles et qu'aucun pays ne peut les modifier pour prendre notre territoire. Donc ça, c'est un principe clé en droit international.
Ça, c'est la théorie.
Oui, mais la pratique, maintenant, c'est le gouvernement congolais qui doit faire respecter ce principe par les autres États, si jamais nous avons des preuves qu'il y a des tentatives de bouffer du Congo, comme on dit, de nous arracher quelques kilomètres carrés. Et là, nous devons être intransigeants et sévères. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement congolais qui gère le territoire national.
Merci. Honorable Gaston Moussemena, il y a une réaction. Le député Moussemena affirme que la situation n'est pas grave. Comment alors réagit-il par rapport au nombre élevé des populations, environ 1000 responsables des ménages qui ont fui Sissirodo pour l'intérieur du territoire? Il y a également 12 écoles qui n'ont toujours pas repris les cours, tout ceci à cause de la peur. Quelle est sa réaction, honorable Moussemena?
Non, je ne sais pas si j'ai été bien compris. La situation est très grave. Voilà pourquoi j'ai commencé par saluer le patriotisme de l'Église catholique. J'ai tout simplement dit qu'avant cela, il n'y avait pas de cas aussi graves. Mais la situation dénoncée est très grave, et notre gouvernement est interpellé. Interpellé pour que toute affaire se sente, une réunion mixte soit convoquée entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Il est vrai que nous sommes à Kampala en train de négocier avec les M23. Il est vrai que nous sommes ici à Kinshasa en train de passer le temps à réfléchir dans le cadre de concertation nationale. Mais il est aussi vrai que le gouvernement devra continuer à gérer au quotidien le pays. Donc j'insiste que je sois très bien compris. La situation est très grave et intolérable. C'est le problème de la faiblesse de l'autorité de l'État. L'État doit se ressaisir. Voilà ce que je voulais dire. Mais je voulais solliciter votre indulgence pour que je revienne un peu sur l'incident de Goma, de Gisenyi ou de la Grande Barrière. J'aimerais vraiment que l'opinion me comprenne. Je ne crois pas qu'il s'agit d'un problème d'interprétation des frontières. Je suis convaincu que c'est seulement un prétexte pour justifier un enlèvement provocateur de la part des éléments du Rwanda, parce que vous le savez, dans le cadre de notre conflit au niveau avec le M23, il y a des officiers rwandais qui ont été capturés. Donc vous devez comprendre ça globalement. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse croire que c'est un problème d'interprétation de frontières, que notre soldat aurait traversé illégalement la frontière. Je suis convaincu que c'est un enlèvement forcé provocateur pour que s'attendre à des réactions peut-être brutales et justifier un grand conflit pour rien.
Merci, honorable Mohamed Boulet. C'est la deuxième partie de la mission. Que faire pour mieux sécuriser les frontières de la RDC?
Ce qu'il faut, c'est d'abord de faire actionner au regard de ces conflits, au nombre de conflits latents, de la frontière. J'ai cité ici avec l'Ouganda et je dois, comme je l'avais dit ici, les dossiers déjà en cours. Le gouvernement avait déjà sous examen pris des dispositions pour ces problèmes, les processus de reconstruction. Et même un budget a été voté pour que les deux pays se mettent d'accord pour établir les frontières dans les lieux indiqués et tels que...
Conformément au traité.
Et c'est pourquoi notre gouvernement, les ministères qui a à son, dans son ministère, cette commission permanente des frontières, prennent à bras les côtes tous ces cas. C'est le ministère de l'Intérieur prend à bras les côtes tous ces cas ici pour actionner, amener le preuve, comme a dit le professeur, rechercher le preuve de façon à porter l'affaire d'abord à l'Union africaine. Si là-bas, parce qu'il y a une commission ad hoc au sein de l'Union africaine, en même temps que le gouvernement fasse des efforts dans le cadre de la montée en puissance des forces armées, que nous ayons des éléments à commettre pour les missions de sécurisation, que la force terrestre ait des éléments pour assurer l'intégrité du territoire, y compris en d'autres termes, les unités de la police nationale pour les missions des frontières, parce que le mouvement migratoire puisse être sous contrôle.
Merci. Honorable Gaston Semena, à votre avis, que faut-il faire pour mieux sécuriser les frontières de la RDC?
Il y a deux aspects. En interne, les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre dans le cadre de réformes institutionnelles programmées, mettre en œuvre, je disais, pour créer une armée républicaine de professionnels et une armée dissuasive capable de faire redouter toutes les tentatives des étrangers. En deuxième lieu, les institutions de la République, disais-je, doivent tout faire pour actionner les mécanismes internationaux existants dans le cadre de règlement des conflits frontaliers.
Merci. Merci. François Tshibankwalala, à votre avis, que faut-il faire pour mieux sécuriser les frontières de la RDC?
Je vais d'abord citer ici cette parole du roi des Belges, Albert Ier, pendant la Première Guerre mondiale. Il a dit ceci: un pays qui se défend s'impose au respect de tous. Un tel pays ne peut pas mourir. Et donc, il faut que la RDC apprenne à se défendre. Donc, première chose, il faut qu'on ait une armée des forces de sécurité pour assurer la protection de notre territoire. Ça, c'est un. De deux, il y a la question de la démarcation des frontières sur le terrain. Le général Boulet vient d'en parler. Vous prenez le cas avec la Zambie. Depuis le lac Tanganyika jusqu'au lac Banguelo, en passant par Mwero, cette frontière n'est pas démarquée sur le terrain, Guimaté. Nous avons signé un traité en 1980 sous le Marshal Mobutu. On a dit que dans un délai de 6 mois, on va poser les bornes. Jusqu'aujourd'hui, une vingtaine d'années après, on n'a jamais posé une seule borne.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et donc,
il faut poser ces bornes-là.
Alors, justement, il faut que le gouvernement de la République mette en place une action volontariste pour contacter tous les pays voisins.
Merci.
De manière à mettre à jour l'état de nos frontières.
Merci.
Reconstruire les frontières, disons, reconstruire les bornes, les multiplier pour éviter des incidents de frontières. Ça, c'est très important. Et puis, je vais terminer par là. Il faut équiper suffisamment l'Institut géographique du Congo. C'est là où nous avons des techniciens, des gens de haut niveau, des géographes, des topographes, etc.,
Merci.
Qui peuvent faire ce travail. Il faut leur donner des moyens appropriés Merci. Le plus vite possible et les déployer sur le terrain. Bien sûr, en collaboration avec les pays voisins.
Honorable Merci. Mohamed Boulet, votre conclusion?
La conclusion, comme nous sommes à l'aise avec l'Institut géographique du Congo pour faire ce travail-là. Nous sommes à l'aise avec la commission permanente des frontières qui est donc qui fait partie du ministère de l'Intérieur. Et donc il faut actionner tout simplement et porter l'affaire au plus haut niveau, à l'Union africaine, et pourquoi pas dans le cadre des institutions, des organismes régionaux et sous-régionaux que nous avons.
Merci, c'est la fin de cette émission et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.